Bon, alors on va s'en aller. Dès que là, préparez-vous, on va diffuser en direct le point de presse, fait que ça se peut que ça coupe vite. C'est les fameux scénarios demandés depuis plusieurs jours. L'Ontario le fait, vous devez être au courant. Si vous écoutez le point de presse comme nous, à chaque fois, il y a des questions à Arruda, à M. Legault. Allez-vous nous présenter les scénarios, vers quoi on s'en va? Parce qu'il y en a. Des positifs, puis des pessimistes.
Oui.
Puis là, ça a l'air qu'on se situe plus du côté des optimistes, mais on aimerait ça savoir vers quoi on s'en va. Jean-Simon, est-ce qu'il y a des détails qui ont déjà filtré parce que les journalistes ont déjà l'information?
Oui, c'est ça. On vient de m'envoyer le document avec les scénarios en tant que tel. Donc, en attendant le point de presse, on va être en mesure de vous donner un petit peu des chiffres qui sont prévus et des horizons temporels un petit peu. Bon, alors les deux scénarios qui sont présentés, on les qualifie de optimistes avec un pays associé ou de pessimistes avec, en généralement, l'Italie qui est associée. Alors, dans le cas des cas cumulés positifs, en date d'aujourd'hui, on prévoit un pic le 30 avril. Okay? Dans le scénario A, qui serait le scénario optimiste, qu'on compare au Portugal, parce qu'effectivement, au Portugal, ça se passe très bien, on prévoirait 29 212 cas le 30 avril, des cas positifs confirmés. Pour ce qui est du scénario pessimiste, qui, on vous le rappelle, a été un peu écarté, pas tout à fait, là, mais a été moins, disons, moins vraisemblable selon les autorités présentement, on monterait à 59 845. Ça, c'est dans le cas d'une courbe qui ressemblerait à l'Italie. Dans le cas des hospitalisations en tant que telles, le pic serait atteint aux alentours du 16 avril. Dans un scénario pessimiste, donc similaire à l'Italie, on parlerait de 3028 hospitalisations, donc un pic le 18 avril. Dans le cas d'un scénario optimiste, on serait à un pic un peu plus éloigné, donc à peu près le 21 avril, avec 1404 hospitalisations. Aux soins intensifs, scénario pessimiste, il serait atteint dès le 16 avril avec 1009 patients aux soins intensifs. Pour ce qui est du scénario optimiste, il serait atteint aux alentours du 21 avril avec 468 hospitalisations aux soins intensifs. Et pour ce qui est des décès, c'est peut-être la donnée que vous attendiez avec le plus d'impatience.
Ouais.
Scénario pessimiste et optimiste, dans les deux cas, serait atteint le 30 avril, donc pic de décès dans ce cas-ci. Scénario pessimiste, 8860 décès. Scénario optimiste, 1263 décès.
On est à 150 décès. On n'a pas fini, hein?
Oh non.
Et ça, c'est le scénario optimiste. Moi, c'est ce qui me frappe beaucoup, là.
Oui.
Mes remarques, ils n'ont pas arrêté de le dire, c'est les deux, trois prochaines semaines qui vont être les plus tough.
Oui.
Faut passer à travers ça. Les amis, on n'a pas le choix. La bonne nouvelle, c'est qu'après, là, on a atteint le pic puis on descend. Mais on est à 9340 cas et le scénario optimiste en prévoit 29 000.
Oui.
On n'est pas à la moitié, là. On est à peu près au tiers.
Oui,
c'est
exact.
Ça? On est seulement au tiers, les amis. Et concernant le nombre de décès, ben là, c'est là que ça frappe peut-être le plus. On est à 150 et le scénario optimiste en prévoit 1200.
T'as 10%. T'as 10% exactement du nombre de décès actuels.
Pas fini.
Mais ça veut dire qu'il prévoit que beaucoup de gens qui sont aux soins intensifs ou hospitalisés ou dans les résidences ou je sais pas trop quoi passeront pas au travers.
Dans le scénario optimiste, Sylvain, c'est intéressant de faire le calcul. 1263 décès, donc scénario optimiste, divisé par le nombre de cas positifs confirmés, 29 212, on arrivait à 4%.
C'est beaucoup.
C'est beaucoup.
S'il y en a qui comparent ça encore à la grippe qui est 0.01, c'est 0.01 la grippe. Je ne sais pas si je ne me trompe pas, là, hein? C'est pas mal ça qu'on a toujours dit.
Mm-hmm.
Là, on serait à 4%. C'est beaucoup plus. Je vais essayer de voir du positif un peu là-dedans parce qu'il y en a. Le pic devrait être atteint au niveau des hospitalisations à la mi-avril, puis au niveau des morts à la fin avril.
Oui.
Donc, en mois de mai, ça devrait descendre un peu.
C'est
conférence
ça.
De presse, on peut y aller.
Accompagné de M. Yvan Gendron, sous-ministre au ministère de la Santé et des services sociaux. Alors, Dr Massé, est-ce que vous voulez prendre la parole en premier?
Merci beaucoup. Ça nous fait plaisir de vous rencontrer pour vous présenter les différents scénarios, les modèles qui ont été élaborés. Oui, merci. Comme vous avez vu, les modèles sont basés à partir à la fois des données québécoises et à partir des données qu'on a de d'autres pays.
C'est M. Richard Massé qui parle.
Ces pays-là
exact.
Parce qu'ils avaient des caractéristiques importantes pour se comparer. Des modèles où est-ce que les gens sont intervenus plus tardivement, parce qu'ils ont détecté l'épidémie plus tardivement, je pense à l'Italie, et c'est un facteur important qui a modulé la transmission. D'autres pour lesquels il y a eu des interventions rapides, et ça a été un facteur très important dans le contrôle. Donc, j'imagine que vous aurez peut-être des questions en lien avec ça. En même temps, il faut comprendre que quand on fait des scénarios, ces scénarios-là sont une prévision de la réalité mais ils ne sont pas la réalité. Il y a beaucoup de facteurs qui peuvent influencer l'évolution de l'épidémie au Québec, la pandémie au niveau mondial. Et un de ces facteurs-là, c'est certainement les mesures qui ont été prises rapidement par le gouvernement du Québec pour contrôler la transmission. Et si les gens maintiennent l'attitude qu'ils ont eue jusqu'à date, on a eu des résultats assez importants, un succès, on devrait dire, à date. Et il ne faut surtout pas les relâcher. Donc, on pourrait accepter vos questions, à moins que M. Gendron ait des...
M. Massé qui parlait, c'est l'adjoint de M. Arruda. Donc, ce que vous avez entendu, Richard Massé, l'adjoint de M. Arruda.
Il est certain que moi, en fonction de mon rôle comme sous-ministre de la Santé et Services sociaux, là, bien sûr, sous le leadership de nos trois ministres, il était important de s'assurer qu'on puisse capter les informations nécessaires pour organiser les services, pour être prêt d'avance et bien d'avance. Pour pas être pris là à la dernière minute là à savoir comment on s'organise, comment on libère des lits, comment on s'assure qu'aux soins à domicile, on soit auprès de la population, des gens qui sont vulnérables, d'être à l'affût de leurs besoins tout le temps. Je pense aussi aux jeunes, à leurs familles, aux gens qui sont dans les centres jeunesse là. Donc peu importe le secteur ou surtout notre clientèle, fallait être prêt. L'itinérance, c'est la même chose, hein, l'itinérance dépendance dans les secteurs de la ville de Montréal par exemple ou de d'autres villes, peu importe. Nous, fallait savoir là qu'est-ce qui risque de se passer en fonction de l'expérience acquise des autres pays, des différents scénarios, et en fonction des faits réels qui sont observés actuellement, tant au niveau du nombre de cas, du taux d'hospitalisation, du nombre de cas qui est en soins intensifs, et s'assurer quel retour, finalement, comment on s'assure d'un retour adéquat en sécurité pour l'ensemble de la clientèle. Donc, c'est un grand défi. Donc, on devait planifier, être prêt, bien sûr, en tenant compte des ressources disponibles, que sont, bien sûr, notre personnel, les médecins, là. Parce qu'eux aussi, ils vont être atteints, donc, à un différent niveau. Donc, on veut s'assurer qu'ils soient bien protégés pour bien soigner, pour être disponibles pour l'ensemble, là, des besoins des différentes clientèles, qu'elles soient vulnérables, très vulnérables ou moins vulnérables. Donc, là-dessus, bien sûr, il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits, tant au niveau de la planification des lits, par exemple, en centre hospitalier, tant au niveau aussi de s'assurer d'avoir le bon équipement. Et là-dessus, c'est un combat, hein, vous l'avez vu, hein, c'est un combat mondial pour l'acquisition des différents équipements, qu'ils soient masques, blouses, gants, etc. Je n'ai pas besoin de vous les nommer. Donc là-dessus, en fonction des données qui ont été observées et qui nous sont données jour après jour, on s'adapte pour être bien prêt pour faire face justement à ces besoins-là de la population.
Merci à vous deux. Alors, si vous êtes prêts à prendre les questions des collègues de la Tribune de la Presse, nous allons débuter avec Olivier Bossé, du journal Le Soleil.
Bonjour. Évidemment, ces deux scénarios... En fait, si je comprends bien, c'est que ces graphiques-là appliquent les chiffres des autres de ces deux autres pays aux chiffres du Québec, mais au Québec. Donc, est-ce que c'est possible de savoir où on va se retrouver entre les deux?
Comme ça a été mentionné déjà, c'est extrêmement difficile de mettre un chiffre précis où est-ce qu'on va se retrouver. Et c'est pour ça qu'on a arrêté la courbe au réel, pour que vous puissiez vous-même voir que si on pense que les choses se déroulent bien par rapport à un pays qui a beaucoup de caractéristiques qui se rapprochent de nous, à ce moment-là, on va être vraiment proche du scénario optimiste. On sera certainement pas proche du scénario pessimiste. Mais si vous me demandez un chiffre entre les deux chiffres qu'il y a là, je ne vais pas vous mettre un chiffre précis. Mais je vais vous dire, on va être certainement proche du chiffre optimiste pour ce qui est du nombre de cas, puis pour ce qui est du nombre de décès, parce que c'est l'autre chiffre dur. Bien, vous voyez la courbe comme nous, ce n'est pas le même pays qui est comparé, mais ça montre que aussi on est dans une position relativement favorable. Mais il y a plein d'autres pays qu'on aurait pu comparer en Europe, mais ces pays-là, on les a pris parce qu'il y avait soit des performances qui étaient moins bonnes, pas parce que les pays sont moins bons, parce qu'ils ont commencé à intervenir plus tardivement. Le diagnostic de la transmission dans des centres urbains dans le nord de l'Italie s'est fait tardivement. Il y avait déjà plusieurs générations de transmission quand c'est arrivé. Puis là, les modèles montrent que quand il y a un retard pour commencer à appliquer les mesures, ça donne des chiffres qui sont un scénario extrêmement difficile, pénible, difficile à vivre. Alors que la comparaison des scénarios optimistes, c'est quand les gens interviennent rapidement. Ça, c'est le premier facteur. Et on est intervenu très rapidement. Le deuxième, c'est la fonction de la compliance des gens aux mesures qui sont mises en place. Puis là, je vous réfère au sondage Google qu'on a eu cette semaine qui montre que les Québécois sont vraiment de façon exemplaire. Il y a toujours des exceptions, mais ils sont vraiment exemplaires. Et ça, c'est un facteur extrêmement important pour être capable de voir la suite des choses. Et là-dessus, ça nous met dans une situation qui est pas les meilleurs au monde, là, on n'est pas là-dedans, mais je dirais parmi les gens qui ont fait les bonnes mesures au bon moment puis qui devrait avoir moins de mauvaises conséquences que ce qu'on voit. Donc, relativement optimiste par rapport au scénario à arriver, effectivement.
En sous-question?
Je suis curieux de savoir, M. Massé, si vous étiez, vous, du côté des favorables à dévoiler ça ou pas. C'était quoi votre... c'était quel côté vous penchiez?
J'étais personnellement, j'étais mal à l'aise de faire une projection bien au-delà de ce qui est mis là. Parce qu'il y a des gens qui ont fait des projections qui sont beaucoup plus loin en avant de nous. Pas, des gens pas loin de nous, la province à côté. Et puis... on était extrêmement mal d'aller dans une situation comme ça parce qu'il y a trop de facteurs qui peuvent intervenir, notamment si on change les mesures puis on relâche les mesures. Il va falloir reprendre la vie, reprendre l'économie. Et donc, ça, c'est un facteur très important qui peut changer la transmission. La deuxième, c'est qu'il peut intervenir des médicaments. Puis il y a plusieurs recherches qui se font sur des médicaments, même ici au Québec, plusieurs études qui sont en cours, mais avec un volet national, international, et qui peuvent changer, même à court terme, l'évolution de la pandémie. Le troisième, il y a des recherches sur les vaccins. Ça prend plus de temps pour avoir des vaccins, mais c'est un, je m'excuse du mot anglais, mais c'est un game changer. Et puis, donc ça pourrait être vraiment important. Donc, une prévision qu'on pense qui est relativement bonne, relativement stable, nos scientifiques sont confortables d'avancer dans cette échelle-là, est à 30 jours. Fait confortable de donner les chiffres à 30 jours, oui. Si vous me demandez dans 6 mois ou dans 12 mois, moi, je n'étais pas confortable.
Très bien. Maintenant, au tour de Patrice Bergeron, la presse canadienne.
Bonjour, messieurs. On regarde vos graphiques et on voit que parfois, on fait mieux que le scénario optimiste, par exemple, dans le nombre d'hospitalisations, dans le nombre de personnes aux soins intensifs. Parfois, on fait moins bien que le scénario optimiste, par exemple, pour les cas positifs ou pour les décès. Comment vous expliquez ces variations-là, par exemple?
En fait, on aurait pu changer de pays à chaque fois pour dire, bien, eux, c'est les meilleurs, on va se comparer aux meilleurs, puis vous donner des comparables différents à chaque fois, hein, pour dire, on se compare aux meilleurs. En fait, il y a plusieurs pays qui sont dans le groupe des meilleurs. Et puis, on a pris le Portugal... et on a pris l'Allemagne parce que l'Allemagne avait, au niveau des décès, vraiment des bons résultats. Le Portugal, c'était bien expliqué tantôt par M. Lafleur. Il y a beaucoup de choses qui sont proches de nous au niveau du Portugal. Il y a des centres urbains importants, proximité de l'Europe. Le fait qu'il y ait beaucoup de voyageurs qui viennent et qui sortent de là-bas. Le fait qu'ils sont à côté de l'Espagne, qui est une zone de transmission importante. Nous, on a New York, on sait que c'est un facteur important au niveau du Québec. Le niveau des services de première ligne, etc. Donc, je ne veux pas aller trop dans le détail, mais il y a beaucoup de caractéristiques importantes. Mais le facteur le plus important là-dedans, la plupart des pays ont mis des mesures de contrôle qui sont assez proches. Ah, d'aucuns ont dit, non, on ne va pas interdire la bicyclette, d'autres, on va interdire la marche, d'autres, on va... Écoutez, ça dépend de la proximité des personnes, ça dépend de l'organisation urbaine. Je pense que les regarder individuellement, c'est pas une bonne chose. J'aimerais mieux qu'on les regarde collectivement. Puis collectivement, les gens, il y en a qui au début ont dit, oh, on va laisser aller. Là, je pense que vous êtes, tout le monde a bien compris que laisser aller, c'est pas une bonne solution. Donc, tout le monde l'a compris. Fait que tout le monde a pris des mesures de distanciation. Tout le monde a pris des mesures pour protéger les plus vulnérables. Mais il y en a qui ont eu la vision ou la capacité de le faire rapidement, efficacement, fortement. Et ça, c'est la différence. Après ça, qu'on dise, est-ce qu'on aurait pu prendre tel pays, non, c'est la façon que les choses ont été faites. Et c'est là qu'on se compare. Quand je dis optimiste, c'est peut-être le mot même, on devrait, mais un scénario des gens qui ont pu intervenir rapidement parce qu'ils ont diagnostiqué rapidement. Peut-être qu'on a été chanceux parce qu'on a eu les premiers cas un peu après les autres. Hein. Ça a été bien dit, mentionné aussi, on a 15 jours de retard par rapport au nombre de 10 qui est le début, où est-ce qu'on le calcule. Voyons, là, inversement, on a 15 jours d'avance pour voir venir les choses puis dire, eh oh, si on fait rien, il va arriver un problème majeur. Et on en a profité de ce temps-là pour intervenir tout de suite.
Est-ce que vous avez une sous-question?
Oui, j'aurais une sous-question parce que tout à l'heure, on a évoqué le sujet dans le briefing technique, mais on a donc évalué que le pic pourrait survenir autour du 18-20 avril. Si on pouvait expliquer maintenant au grand public pourquoi on l'estime à peu près dans ces dates-là.
Bien, encore une fois, on se fie à la dynamique de transmission du coronavirus. Au début, on sait que ce virus-là se multipliait par deux, le nombre de cas se multipliait par deux à peu près aux 3 jours. On regarde la transmission au Québec et ailleurs, puis tout d'un coup, on voit que c'est plus de 3 jours, mais que ça devient quelque chose comme 4 jours, puis actuellement, quelque chose comme 6 jours. Donc, on est capable de voir qu'il y a un changement dans la transmission dû en bonne partie, pas à l'immunité encore dans la population parce qu'il n'y en a pas assez, mais aux mesures de contrôle qui ont été mises en place. Et quand on fait les projections de modèles de transmission, là, à ce moment-là, on est capable de voir que ça, c'est, ça va ralentir assez la transmission si on continue d'appliquer les mesures correctement. J'insiste, c'est vraiment, vraiment, vraiment important. Docteur Arruda, il dit tout le temps aplatir la courbe, mais je pense que c'est important de saisir ça. Si on ne modifie pas les choses comme ça tout d'un coup, il va falloir rouvrir notre capacité. Là, à ce moment-là, on peut voir, faire des projections, effectivement, qu'on va arriver à une fourchette. On peut focusser sur un chiffre. Moi, j'aime pas ça dire un chiffre parce que c'est plutôt une fourchette. Puis la fourchette, tout le monde s'accorde pour dire que ça devrait être quelque chose comme entre le 15 et le 20. Le 18, c'est certainement une bonne date pour les prévisions. Quand on prévoit pour les lits, on a besoin d'avoir un chiffre, une date. Donc, on le fait comme ça. Mais moi, je vous dis, d'un point de vue de la santé publique, c'est un peu plus large comme ça. On est plus prudent un peu.
Merci. 1h30. Alors voilà, c'était le point de presse suite au dévoilement des fameux scénarios du gouvernement optimiste ou pessimiste. C'est un peu la boule de cristal du gouvernement qu'on a dévoilé cet après-midi. Évidemment qu'il faut prendre ces chiffres-là, comment je pourrais dire ça, avec précaution. Oui. Ce sont des prévisions. Mais moi, j'aime ça. On va vous les répéter d'abord pour ceux qui ont manqué à 16h15 l'introduction avec Jean-Simon. Fait que voici avec le scénario le plus probable, parce que là, ils nous disent qu'on est dans le camp... c'est-à-dire qu'on est dans la courbe un peu des scénarios optimistes. Alors, ça donnerait quoi comme évolution dans les prochains jours, Jean-Simon?
Commençons par les cas positifs confirmés. Alors, présentement, on est à 9340. On monterait, dans le scénario optimiste, à 29212. Si on regarde le chiffre actuellement, on est un petit peu au-dessus de la courbe optimiste pour ce qui est des cas confirmés. Donc, on a un petit peu plus que ce qui serait dans la courbe optimiste.
Ah, OK. Mais il en reste encore 3 fois plus à venir, là.
Exact. Ouais. Pour ce qui est du nombre d'hospitalisations, en ce moment, on est à 583. On atteindrait un pic optimiste aux alentours du 21 avril à 1404.
Bon, 1404, là, on a 6000 lits de disponibles.
Exactement.
Fait qu'on est encore capable d'absorber ça. Ça, c'est la bonne nouvelle.
Oui, et d'ailleurs, on est un peu en dessous du chiffre projeté dans la courbe optimiste pour ce qui est des hospitalisations. Et c'est la même chose pour les soins intensifs. On est à 164 cas aux soins intensifs présentement. Courbe atteinte aux alentours, c'est-à-dire pic atteint aux alentours du 21 avril à 468 dans un scénario optimiste. Encore une fois, on est un peu en dessous de la courbe optimiste qui est basée sur le scénario portugais présentement par rapport à l'évolution qui a eu lieu au Portugal. Et pour ce qui est du nombre de décès, le pic serait atteint comme le nombre de cas aux alentours de 1263. En tout cas, c'est jusque-là que se rend la courbe. On est présentement à 150 décès, un peu au-dessus de la courbe optimiste en ce moment. Donc, on serait environ, on est un petit peu plus de 10% des décès projetés dans un scénario optimiste. Mais ce qu'on remarque de façon extrêmement spectaculaire, c'est que moi, j'ai les graphiques sous les yeux. On vous les rendra disponibles bientôt sur nos médias et sur nos sites Internet, nos médias sociaux et nos sites Internet.
Ouais.
Mais ce qui est vraiment flagrant, c'est le gouffre entre le scénario pessimiste et le scénario optimiste. Là, c'est une montagne de l'Himalaya par rapport à une colline des Laurentides. Okay?
Ça, c'est si on n'avait rien fait. Ce que tu veux nous dire, c'est que le scénario que tu viens de nous donner là, il est quand même pas le fun. C'est parce que, bon, si on regarde ça comme faux, on a encore 3 semaines difficiles, les amis,
oui,
là, avec des chiffres qui vont monter, tout ça. Mais ça aurait pu être tellement pire si on n'avait pas pris de mesures, parce que toi, tu as le scénario pessimiste devant les yeux, là. Puis là, ça aurait été vraiment plus grave.
Oui, absolument. Alors, tu sais, c'est là qu'il faut réaliser à quel point il ne faut pas lâcher présentement. Puis ils l'ont bien mentionné, le docteur Massé, notamment, pendant le point de presse. C'est surtout pas le temps de militer pour rouvrir l'économie à 100% puis tout le monde sorte, là. Tu sais, l'exemple suédois que certaines personnes citent encore, là, je ne vais pas être plate, mais dans les dernières 24 heures, là, le nombre de décès a augmenté de façon fulgurante. C'est 100 décès dans les dernières 24 heures, alors qu'à côté... Et on sera peut-être en mesure de parler à quelqu'un, parce que c'est un auditeur norvégien qui m'a contacté, puis qui disait qu'en Norvège, on est en train de baisser les mesures à partir du week-end de Pâques, parce que on est pas mal sûr d'avoir le virus en contrôle, là. La Norvège, qui est un pays voisin de la Suède et qui a mis en place des mesures très similaires au Québec. Alors, c'est surtout pas le temps de défaire le travail qu'on a accompli jusqu'à maintenant, là.
Moi, je suis d'accord avec toi. Puis moi, je suis très content qu'il ait publié ces scénarios-là. C'est un peu une course qu'on est en train de mener. Là, je sais pas si vous avez déjà couru beaucoup. Là. Moi, je n'ai pas fait de marathon, de demi-marathon. Le maximum que je me suis rendu, c'est 10 km. OK?
Qui est très acceptable, très honorable,
ouais,
même.
Et j'aimais ça quand je faisais ça, voir les pancartes. Là. Je sais pas si vous me suivez. Ah, 3 km de fait. Ah, il m'en reste 7. Ah, 6. OK, il m'en reste 4. Vous me suivez?
Ouais.
Tu sais, je donne souvent l'exemple de la montagne. Tu grimpes une montagne, mais mettons que tu es dans le brouillard parce que rendu à une certaine altitude, il y a des nuages. Tu sais, c'est un peu décourageant quand tu sais pas il est où le sommet, là. Moi, avec ce que tu viens de me donner là comme chiffre, Jean-Simon, ben avec ce que les autorités ont donné puis que ce que tu nous as relayé, là, moi, j'ai l'impression que je vois plus clair.
Ouais.
Là, je sais où on s'en va. D'abord, j'accepte qu'on s'en va dans 3 semaines tough. On n'est pas encore rendu au pic, là.
Non.
Mais on s'approche, dans certains cas, mi-avril, fin avril, dépendamment des catégories, là, hospitalisation, soins intensifs, décès. Il y a beaucoup de données, mais je retiens que le pic va être atteint en avril.
Oui. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est qu'avec les graphiques que je vois aussi, à la fin avril, Sylvain, on est officiellement dans la pente descendante et d'aplomb.
Et là, à partir de là, on pourra commencer à ce moment-là, quand on va descendre, de dire, ben, on rouvre-tu les chantiers de construction? Moi, je pense que c'est les premiers qu'il faut ouvrir. Ça va donner un gros coup à l'économie. Puis au niveau de la distanciation sociale, c'est réglable. C'est gérable.
Ouais.
Tu mets plus de roulottes. Bon, puis après ça, certaines autres usines, puis certaines autres industries, tu sais, là, ça va être le fun. On sera plus dans, tu sais, ce qu'on a vécu depuis à peu près le 13-14 mars, là. Chaque fois, il en fermait un petit peu plus. Là, on va être dans la réouverture. Ce sera progressif, mais ça va être le fun. Entre-temps, je sais pourquoi ils aiment pas ça faire ça. Ils veulent pas que le monde fasse « Yes! Parfait! On peut relâcher dans 3 semaines, ça va être réglé, ou 4 semaines. » Ben non. Si on est dans ces scénarios-là, c'est justement parce qu'on respecte les consignes. Alors, il faut continuer. On a encore un bout de rough à passer, mais on va s'en sortir. Comme le disait notre chanson d'Yvon Deschamps tantôt, on va s'en sortir. C'est ça, la bonne nouvelle. Et ça nous permet aussi de réaliser le fait qu'ils mettent le scénario pessimiste, ce que ça nous permet de réaliser que ce qu'on fait là, ça nous a permis d'éviter ça. Combien d'hospitalisations dans le scénario pessimiste ou de morts?
Ouais, je vais te
répète le nom. Ouais.
Le nombre de morts, c'est presque 9 000. Là. Le nombre de morts, je vais te retrouver les chiffres exacts. Là. Nombre de morts, 8 860 dans un scénario pessimiste. Nombre de personnes aux soins intensifs, 1 009. Fait que, hey. c'est, tu doubles le nombre de personnes aux soins intensifs, puis c'est x8 pour ce qui est du nombre de morts. Là. C'est même pas comparable.
Alors,
même pas
ceux comparable. Là, qui disent encore, c'est un peu comme la grippe. La grippe, on l'accepte. La grippe fait 3 000 morts au Canada sur 12 mois. C'est important de donner ça aussi le 12 mois, là, parce que tous ceux qui arrivent avec les stades de la grippe, là, oubliez pas, là, nous autres, c'est coronavirus dans un laps de temps assez court. Alors oui, la grippe saisonnière fait 3 000 morts par année au Canada, vous avez raison, sur 12 mois. Là, si on n'avait rien fait, ou si on avait fait juste des petites mesures, comme certains le souhaitaient, on aurait probablement pogné, selon ces scénarios-là, tout près de 9 000 morts juste au Québec.
Oui.
Puis genre en 2 mois, là.
Genre en 2 mois.
Ouais. Non, ça n'a pas de
Alors,
sens.
Là, la DAS, bon vous sens. Pensez que c'est tout du monde de 80 ans et plus, oubliez ça. Là. Allez voir ce qui se passe en Italie puis ailleurs. Oui. Quand le système de santé déborde, c'est pas juste du 80 et plus. Là, à date, au Québec, c'est vrai qu'on a beaucoup de 80 ans et plus parce qu'on est encore en contrôle et que les gens en santé, jeunes, on est capable de les soigner, etc.
Ben, on a eu on n'a pas beaucoup parlé, ça, d'ailleurs, mais quand les âges ont été demandés au docteur Arruda, il a mentionné qu'il y avait eu un décès dans la tranche d'âge de 30 à 39 ans. Et il avait aussi précisé que c'était quelqu'un qui était en surpoids assez sévère, mais il me semble que cette donnée-là, on n'a pas parlé beaucoup, là.
Oui, mais c'est ça, c'est parce qu'il a tout de suite ajouté qu'il y avait une obésité ou il y avait de quoi, là.
Ouais.
Qui faisait en sorte, il y avait c'est plat pareil, ça demeure dramatique, mais il y avait quelque chose.
Mais il y en a des gens en surpoids au Québec, là, présentement.
Oui.
Je veux dire, si ça leur a-tu fait peur, ça, de voir ça? Il
mais là, est-ce
des
que
gens?
C'était un cas d'obésité? Ouais. Comment t'appelles ça?
Le morbide, là
on n'a pas eu beaucoup de détails. Tu sais, on n'a pas encore, c'est encore des chiffres, hein? On n'a pas de visage des morts. On en a quoi? 150?
Oui, 150 morts. Puis c'est vrai qu'on a peu de victimes connues. Là. Il y a certaines personnes, des membres de famille qui en ont parlé, mais c'est vrai que pour l'instant, on n'a pas beaucoup de visages.
On n'a pas beaucoup, fait que ça reste des chiffres. Peut-être que ça rend certaines personnes plus insensibles. Moi, j'essaie de mettre des visages. J'essaie d'imaginer. Faites-le. Vous allez voir que 150, c'est déjà beaucoup. On va se rendre en haut de 1 000. Même avec le scénario optimiste. Mais c'est pas fini. La bonne nouvelle, c'est qu'on aurait pu atteindre presque 10 000, là, un peu plus de 9 000 dans le scénario pessimiste. Mmh. Alors, on continue, on lâche pas, on va s'en sortir. Je pense que le gouvernement a fait un geste nécessaire. Je comprends qu'il y a eu des gros débats. Hein. Dr. Arruda voulait pas, c'est Legault qui l'a poussé, c'est ce qu'on a compris. Ben, qu'il l'a un peu incité. Mais je comprends les craintes du Dr. Arruda. Il voulait pas que le monde panique. Moi, je fais confiance aux gens. La majorité, les gens sont intelligents. Ils vont écouter ça. Ça va juste être une petite tape dans le dos, là. Hey, on lâche pas. On continue. 16h39, OFM 93.